Le chemin continuait de monter et la chaleur avec lui. À midi, Tim était trop fatigué et trop affamé pour continuer. Il avait plusieurs fois essayé d'engager la conversation avec Daria, mais elle persistait dans son silence. Il ne servait à rien d'appuyer sur le troisième bouton, mais cela n'affectait pas sa capacité de navigation. Lorsqu'il tournait délibérément à droite ou à gauche de la piste à peine perceptible qui le conduisait dans les profondeurs de la forêt, toujours en pente ascendante, la lueur verte virait au rouge, pour redevenir verte aussitôt qu'il rentrait dans le droit chemin. Il mangea un peu, puis s'assoupit. Lorsqu'il se réveilla, on était en fin d'après-midi et il faisait plus frais. Il cala le panier dans son dos, il était plus léger, passa l'outre à son épaule et se remit en marche. L'après-midi se révéla bref et le crépuscule plus encore. La nuit lui inspirait moins de terreur à présent, en partie parce qu'il avait survécu à la précédente, mais surtout parce que Daria lui fournissait de la lumière sur simple demande. Et la fraîcheur vespérale était la bienvenue après la chaleur du jour. Tim marcha durant plusieurs heures avant de sentir à nouveau la fatigue. Il cherchait un arbre au bord du sentier, avec suffisamment de flocons autour pour se faire un matelas lorsque Daria prit la parole.
« Il y a une vue remarquable un peu plus loin, voyageur. Si vous souhaitez en profiter, dites continuer. Si vous préférez faire halte, dites non. »
Tim se préparait déjà à poser le panier. Il le remit en bandoulière, succombant à la curiosité.
« Continuez, » dit-il.
La lumière du disque s'éteignit, mais une fois que ses yeux eurent accommodé, il vit une lueur un peu plus loin. Ce n'était que le clair de lune, mais il était plus brillant par là-bas que celui qui lui parvenait à travers les frondaisons.
« Utilisez le capteur de navigation vert, » reprit Daria. « Avancez doucement. La vue se trouve à 1 mile, ou 1,1 roues. Au nord de votre position présente. »
Et elle se tut. Tim avança à pas de loup, mais il se trouvait néanmoins fort bruyant. En fait, cela ne fit que peu de différence. Le sentier débouchait sur la première clairière qu'il avait vue depuis son entrée dans la forêt, et les créatures qui s'y trouvaient ne lui prêtèrent aucune attention. Il s'agissait de 6 bafous bafouilleux, assis sur un arbre de fer tombé à terre, le museau levé vers le croissant de lune. Leurs yeux brillaient comme des joyaux. Il était rare qu'on aperçoive un troquen à proximité de l'arbre, et cela était censé vous porter chance. Tim n'en avait jamais vu de sa vie. Certains de ses amis prétendaient en avoir surpris en train de jouer dans les prés ou dans les bosquets de Florus, mais il était sûr qu'ils racontaient des craques. En découvrir une demi-douzaine comme cela, ils étaient bien plus beaux que cette traîtresse d'Armanetta, songea-t-il, car la seule magie qu'ils recelaient était celle toute simple de la vie.
« Ce sont eux qui m'ont rendu visite la nuit dernière, j'en suis sûr. »
Il s'avança comme dans un rêve, sachant qu'il allait sûrement les effrayer, mais incapable de rester là où il était. Ils ne bougèrent pas d'un pouce. Il tendit la main vers l'un d'eux, sourd à la voix qui résonnait dans son crâne, on aurait dit celle de la veuve, et lui disait qu'il allait se faire mordre. Le bafouilleux ne le mordit pas, mais lorsqu'il sentit des doigts dans l'épaisse fourrure sous sa gueule, il sembla se réveiller en sursaut. D'un bond, il descendit de son perchoir, les autres l'imitèrent. Ils se mirent à courir autour de Tim, se mordillant les uns les autres et poussant des jappements suraigus qui le firent éclater de rire. L'un d'eux lui jeta un coup d'œil en douce, comme s'il riait avec lui. Ils le laissèrent sur place pour foncer au centre de la clairière. Là, ils formèrent le cercle sous le clair de lune et leurs ombres en dansant tissèrent une toile dans l'herbe. Soudain, ils stoppèrent et se dressèrent sur leurs pattes postérieures pour tendre leurs antérieures vers le ciel, ressemblant furieusement à des petits hommes velus. Sous le sourire glacial du croissant de lune, ils se tournèrent vers le nord en suivant le sentier du rayon.
« Vous êtes merveilleux !»
leur lança Tim. Ils se tournèrent vers lui, arrachés à leur concentration.
« Merveilleux !»
dit l'un d'eux. Et ils s'enfuirent. Ce fut si rapide que Tim aurait pu croire qu'il avait imaginé la scène, ou presque. Il décida de camper dans la clairière, espérant que les bafouilleux allaient revenir. Comme il sombrait doucement dans le sommeil, il se rappela une remarque de la veuve Smack à propos de la chaleur exceptionnelle pour la saison.
« Peu importe, n'y pense plus. Sauf si tu vois Sir Trocken danser sous les étoiles ou bien pointer sa truffe vers le nord. »
Il venait de voir 6 d'entre eux agir de la sorte. Tim se redressa. Selon la veuve, cela annonçait quelque chose. Mais quoi donc? Un coup de froid? Non, ce n'était pas tout à fait ça.
Un coup de givre,
dit-il à haute voix.
C'est ça.
Coup de givre,
répéta Daria, le faisant sursauter.
Tempête rapide et extrêmement violente. Elle se caractérise par une soudaine baisse de température, accompagnée de vents cinglants. Ce phénomène a causé des dégâts considérables ainsi que des pertes en vie humaine dans les parties civilisées du monde. Dans les zones primitives, des tribus entières ont été anéanties. Cette définition de coup de givre est un service fourni par North Central Positronics.
Tim se recoucha sur son matelas de flocons, les bras croisés derrière la tête, et contempla les étoiles dans le ciel au-dessus de la clairière. Un service fourni par North Central Positronics, hein? Eh bien, peut-être. En fait, il avait l'impression que c'était Daria qui fournissait le service. C'était une machine fabuleuse, voire bien plus qu'une machine. Mais il y avait des choses qu'elle n'avait pas le droit de lui dire. Sauf qu'il lui semblait qu'elle procédait par sous-entendu. Cherchait-elle à le conduire dans un piège, comme le collecteur et cette traîtresse d'Armanetta avant elle? C'était une possibilité. Il était bien obligé de l'admettre, mais il n'y croyait pas vraiment. Il supposait, sans doute parce qu'il n'était qu'un stupide gamin prêt à croire n'importe quoi, qu'elle était restée longtemps sans personne à qui parler et qu'elle s'était prise d'affection pour lui. Une chose était sûre. Si une tempête approchait, il avait intérêt à accomplir sa quête le plus vite possible pour se planquer ensuite. Mais où trouverait-il un refuge? Il repensa aux hommes-plantes du Fagonard. Ils n'avaient pas de refuge, eux. Et il le savait, car n'avait-il pas mimé la danse des bafouilleux pour le prévenir? Il s'était promis de reconnaître ce qu'il cherchait à lui faire comprendre à ce moment-là, et il avait tenu sa promesse. La tempête, le coup de givre approchait. Il le savait, sans doute grâce aux bafouilleux, et il ne pensait pas y survivre. Ces idées noires risquaient de le priver de sommeil, pensa-t-il, mais 5 minutes plus tard, il dormait à poing fermé. Il rêva de Trocken dansant sous la lune. Il considéra bientôt Daria comme une compagne de voyage. Bien qu'elle soit peu loquace et qu'il ne comprenne que rarement son propos et ses motivations. À un moment donné, elle récita une série de chiffres. Puis, elle lui annonça qu'elle ne serait bientôt plus en ligne et qu'elle souhaitait qu'il fasse halte pour lui permettre de localiser un satellite. Il s'exécuta, et durant la demi-heure suivante, le disque sembla totalement inerte. Plus de lueur, plus de voix. Alors qu'il commençait à craindre qu'elle ait péri, la lueur verte réapparut, la tige se redéploya et Daria annonça
« J'ai rétabli la liaison satellite. »«
Je vous en souhaite bien du plaisir, » répondit Tim.
Elle lui proposa à plusieurs reprises de calculer un détour. Tim refusa poliment. Puis, à la fin du deuxième jour, après leur sortie du Fagonard, elle récita un petit poème.
Vois l'œil de l'aigle qui étincelle, sur ses ailes repose le ciel. La terre et les eaux il voit également, et même moi, malheureuse enfant.
Dût-il finir centenaire, ce qui lui paraissait peu probable, eu égard à la folle entreprise dans laquelle il s'était lancé, Tim se dit qu'il n'oublierait jamais les choses qu'il vit lors de ses 3 jours de marche avec Daria par une chaleur étouffante. Le sentier, jadis indistinct, devint une route bien tracée, bordée plusieurs roues durant par des murs de pierre qui s'effritaient. Pendant près d'une heure, le couloir de ciel au-dessus de cette voie s'emplit de milliers de grands oiseaux rouges qui semblaient migrer vers le sud.
« Mais sans doute n'iront-ils pas plus loin que la forêt sans fin ?»
songea-t-il. Car jamais on n'en avait vu de pareil au-dessus de l'arbre. À un moment donné, 4 cerfs bleus d'à peine 2 pieds de haut traversèrent le sentier, nains mutés indifférents au garçon qui les fixait d'un œil éberlué. Puis il déboucha sur un champ envahi de champignons jaunes, haut de 4 pieds, avec un chapeau de la taille d'une ombrelle funéraire.
« Est-ce qu'on peut les manger, Daria ? »
demanda-t-il, car son panier à provisions était presque vide.
« Le sais-tu ? »
« Non, voyageur, » répondit-elle, « c'est du poison, et il suffit de les effleurer pour périr dans d'atroces convulsions. Je vous conseille une prudence extrême. »
Voilà un conseil que Tim prit très au sérieux, allant jusqu'à retenir son souffle tant qu'il demeurait proche de ces cryptogrammes de mort aux couleurs si vives. Vers la fin du 3e jour, il se retrouva au bord d'un étroit précipice d'une hauteur de plus de 1000 pieds. Il n'en distinguait pas le fond, car entre les falaises dérivaient des myriades de fleurs blanches. Il crut en les voyant qu'un nuage était descendu dans cet abîme. Le parfum qui monta à ses narines était d'une exquise douceur. Un pont taillé dans la roche était jeté sur le gouffre, débouchant sous une cascade que le couchant ornait de reflets rouge sang.
« Je dois traverser ça ?»
demanda Tim d'une petite voix. Le pont semblait à peine plus large qu'une poutre, et guère plus épais en son milieu. Aucune réponse. Mais Daria continua d'émettre sa lueur verte, ce qui en disait long.
« Demain matin, peut-être, »
conclut-il. Il ne fermerait pas l'œil de la nuit, il le savait, mais il préférait ne pas se lancer dans une telle aventure au crépuscule. La seule idée de franchir cet abîme dans la pénombre le terrifiait.
« Je vous conseille de traverser tout de suite, » dit Daria, « et de continuer sans tarder vers le Dogan de la forêt de Kinoknor. Tout détour est désormais impossible. »
Il suffisait de regarder ce gouffre et ce misérable pont pour avoir une conscience aiguë de ce dernier point. Mais quand même...
« Pourquoi ça ne peut pas attendre demain ? Il y aurait moins de risques. »
Directive numéro 19.
Il entendit un déclic nettement plus prononcé que les précédents. Puis Daria ajouta...
« Je vous conseille de faire vite, Tim. »
Il lui avait demandé à plusieurs reprises de l'appeler par son nom plutôt que de lui donner du voyageur. C'était la première fois qu'elle le faisait et cela acheva de le convaincre. Il abandonna, non sans regret, le panier offert par la tribu du Fagonard, de peur de perdre l'équilibre. Il glissa les 2 derniers popkins sous sa chemise, cala l'outre dans son dos, puis vérifia que le pistolet à 4 coups et la hache de son père étaient bien en place. Il s'avança vers le pont de pierre, contempla les bancs de fleurs blanches et vit que les premières ombres du soir s'y creusaient. Il s'imagina faire un irréparable faux pas, se vit battre des bras en vain pour recouvrer l'équilibre, sentit ses pieds glisser sur la roche pour s'agiter dans le vide, entendit un cri horrifié sortir de ses lèvres. Quelques instants pour regretter la vie qu'il aurait pu vivre et ensuite...
« Daria, »
dit-il d'une voix éraillée,
« je suis vraiment obligé. »
Elle ne daigna pas répondre, mais son silence était éloquent. Tim s'avança. Le bruit de ses bottes sur la roche était assourdissant. Il ne voulait pas baisser les yeux, mais il n'avait pas le choix. S'il ne regardait pas où il allait, il était fichu. Au début, le pont était aussi large qu'un sentier de village, mais lorsqu'il arriva en son milieu, ainsi qu'il l'avait craint, même s'il espérait que ses yeux lui jouaient des tours, il était presque aussi étroit que ses semelles. Tim voulut tendre les bras pour assurer son équilibre, mais le vent soufflant des profondeurs fit gonfler sa chemise et il craignit de s'envoler comme un cerf-volant. Il garda donc les bras le long du corps et avança un pied après l'autre, tout doucement. Plus de doute à présent. Son cœur émettait ses derniers battements, son esprit formulait ses ultimes pensées éparses.
« Maman ne saura jamais ce qui m'est arrivé. »
Tim avait conscience de la fragilité du pont et sentait le vent gémir en caressant sa surface érodée. Chaque fois qu'il faisait un pas, il était obligé de porter un pied au-dessus du vide.
« Continue d'avancer, »
s'ordonna-t-il, car il savait qu'il risquait de se figer sur place si jamais il hésitait. Puis il perçut un mouvement du coin de l'œil et, malgré lui, il hésita. De longs tentacules rugueux émergeaient des fleurs. Gris ardoises sur leur partie supérieure, ils étaient en dessous d'un rose rappelant la couleur de la peau brûlée. Ils montaient vers lui en ondoyant d'abord deux, puis quatre, puis huit, puis tout un bouquet.
« Je vous conseille de faire vite, Tim. »
déclara Daria. Il s'ordonna de se remettre en marche. Lentement tout d'abord, puis de plus en plus vite, à mesure que les tentacules se rapprochaient. Une bête avec 1000 pieds d'allonge, ça n'existait pas, si monstrueux soit son corps tapi sous les fleurs. Mais lorsque Tim vit les tentacules s'étirer pour monter encore plus haut, il pressa l'allure. Et quand le plus mince et le plus long toucha le pont et commença à ramper vers lui, il se mit carrément à courir. La cascade, qui avait viré au rose orangé, tonnait devant lui. Des embruns aspergèrent son visage brûlant. Tim sentit quelque chose effleurer sa botte, cherchant à la gripper, et se jeta sous la chute d'eau en poussant un cri inarticulé. Un instant de froid glacial, comme un drap lui enveloppant le corps, puis il se retrouva de l'autre côté de la cascade, de retour sur la terre ferme. L'un des tentacules le suivit. Il se dressa comme un serpent tout dégoulinant, puis se retira.
« Daria, est-ce que ça va ?»«
Je suis étanche, »
répondit Daria d'un ton qui lui parut un rien suffisant. Tim s'ébroua et parcourut les lieux du regard. Il se trouvait dans une petite caverne. Sur l'une des parois figurait une étrange sentence, rédigée avec une peinture rouge qui était devenue rose pâle au fil des ans, voire des siècles. Jean 3,16 Redoute l'enfer, espère le paradis. Homme Jésus. Devant lui s'amorçait un petit escalier de pierre inondé de la lueur mourante du couchant. D'un côté s'amoncelaient des boîtes métalliques et des pièces détachées. Ressorts, bouts de fil, éclats de verre et rectangles verts parcourus d'arabesques de métal. De l'autre se trouvait un squelette ricanant au thorax dissimulé sous une vieille gourde. « Salut, Tim, » semblait-il lui dire. « Bienvenue de l'autre côté du monde. Tu veux une gorgée de poussière ? J'en ai à foison. » Tim monta les marches 4 à 4, évitant d'approcher cette relique de trop près. Il savait bien qu'elle n'allait pas s'animer pour le saisir au passage, comme les tentacules avaient tenté de le faire. Quand on est mort, on le reste. Mais deux précautions valent mieux qu'une. En sortant, il vit que le sentier se poursuivait dans la forêt, mais qu'il n'y resterait pas longtemps. Non loin de là, dans les hauteurs, les grands arbres vénérables s'écartaient pour encadrer une clairière beaucoup plus vaste que celle où les bafouilleux avaient dansé. Une gigantesque tour tendait ses poutrelles métalliques vers le ciel. En son sommet clignotait une lumière rouge.
« Vous êtes presque arrivé à destination, » dit Daria. « Le Dogan de la forêt de Kinnoknor se trouve à 3 roues d'ici. »
Nouveau déclic, plus net que le précédent.
« Vous devez faire vite, Tim. »
Alors qu'il contemplait la tour et sa lumière clignotante, la brise qui l'avait tellement terrifié sur le pont se leva de nouveau, bien plus fraîche cette fois. Il parcourut le ciel du regard et vit que les nuages filaient désormais à toute vitesse vers le sud.
« C'est le coup de givre, n'est-ce pas, Daria? Le coup de givre arrive !»
Daria ne répondit point, mais ce n'était pas nécessaire. Tim se mit à courir. Lorsqu'il arriva dans la clairière du Dogan, il était tout essoufflé et à peine capable de trotter. Le vent gagnait en force, l'empêchait d'avancer, et les hautes branches des arbres de fer commençaient à chuchoter. L'air était encore relativement doux, mais ça ne durerait sûrement pas longtemps. Tim devait se mettre à l'abri, et il espérait pouvoir le faire dans le Dogan. Mais comme il entrait dans la clairière, ce fut à peine s'il accorda un regard au bâtiment circulaire et surmonté d'un toit métallique qui se trouvait au pied de la tour squelettique. Il avait aperçu autre chose, qui monopolisait toute son attention et lui coupait le souffle.
« Est-ce que je vois ce que je vois? Est-ce que je le vois vraiment ?»« Dieu !»
murmura-t-il. Le sentier devant lui était pavé d'une substance sombre et lisse, si brillante qu'elle reflétait les arbres dansant sous la brise et les nuages orangés courant dans le ciel. Il débouchait sur un précipice rocheux. On aurait dit qu'ici finissait le monde, pour recommencer à une centaine de roues plus loin. Ici s'ouvrait un abîme au sein duquel les feuilles mortes tournaient et virevoltaient. Il vit aussi des rouillots pris dans ce tourbillon. Ils se démenaient dans les courants sans pouvoir s'en échapper. Certains d'entre eux étaient morts, les ailes arrachées. Mais Tim ne prêta attention ni au gouffre, ni aux oiseaux mourants, ni au vent qui lui ébouriffait les cheveux et plaquait ses habits contre son corps. À gauche de la route métallique, à 3 yards environ du point où le monde sombrait dans le néant, se tenait une cage ronde aux barreaux métalliques. Et devant elle, posé à l'envers, un seau en fer blanc tout cabossé qui lui était familier. Dans la cage, un énorme tigre tournait lentement autour d'un trou creusé au centre. Il vit le petit garçon tout éberlué et s'approcha des barreaux. Ses yeux étaient gros comme des balles de poing, mais d'un vert étincelant plutôt que bleu. Sur son flanc, les raies orange foncé alternaient avec les raies couleur de minuit. Il avait les oreilles dressées. Son museau se rétracta, révélant de longs crocs blancs. Il gronda. C'était un son grave, évoquant une robe de soie se déchirant aux coutures. Peut-être lui souhaitait-il la bienvenue, mais Tim en doutait. Un collier d'argent était passé à son cou. 2 objets y étaient accrochés. Le premier ressemblait à une carte à jouer. Le second était une clé étrangement difforme. Tim n'aurait su dire combien de temps il resta fasciné par ces fabuleux yeux d'émeraude, ni combien de temps il aurait pu s'y abîmer encore, mais une succession de bruits sourds dans le lointain le ramena à la réalité. Cela ressemblait à un échange de tirs d'artillerie.
« Qu'est-ce que c'est ?»« Des arbres de l'autre côté du Grand Canyon, »
expliqua Daria.
Ils implosent sous l'effet du brusque changement de température. Mettez-vous à l'abri, Tim.
Le coup de givre, évidemment. Quand arrivera-t-il ici?
Dans moins d'une heure.
Nouveau déclic.
Je devrais peut-être me désactiver. Non! J'ai violé la directive numéro 19. Tout ce que je peux dire pour ma défense, c'est que ça faisait longtemps que je n'avais eu personne à qui parler.
Clic. Puis, nettement plus inquiétant, clonk.
Et le tigre, est-ce que c'est le gardien du rayon?
Tim fut horrifié alors même qu'il formulait cette idée.
Si c'est le gardien du rayon, je ne peux pas le laisser mourir. »
Le gardien du rayon en ce point, c'est Aslan, répondit Daria. Aslan est un lion, et s'il est encore en vie, il se trouve très loin d'ici. Ce tigre est directive numéro 19.
Nouveau clonk, plus brutal. Tim comprit qu'elle venait d'outrepasser une nouvelle fois cette fameuse directive. À quel prix?
Ce tigre est le phénomène magique dont je parlais. Ne lui prêtez pas attention, mettez-vous à l'abri. Bonne chance, Tim. Vous êtes devenu mon âme.
Cette fois-ci, il n'y eut ni clic ni clonk, mais un horrible crunch. Un panache de fumée monta du disque et la lueur verte s'éteignit.
Daria!
Rien.
Daria, revenez!
Mais Daria n'était plus là. La canonnade des arbres mourants demeurait lointaine, bien au-delà de la fosse ennuagée qui divisait le monde, mais il ne faisait nul doute qu'elle se rapprochait. Le vent se faisait sans cesse plus fort et plus froid. Dans les hauteurs, un ultime banc de nuées filait vers l'horizon. Il laissait la place à une horrible clarté violette où les premières étoiles scintillaient déjà. Le murmure du vent dans les plus hautes branches montait en un cœur de soupir désolé. On eût dit que les arbres de fer avaient conscience de leur fin prochaine. Un bûcheron cyclopéen marchait sur eux, agitant sa hache de vent. Tim jeta un nouveau coup d'œil au tigre, qui s'était remis à arpenter sa cage d'un pas lent et majestueux, comme si le petit garçon n'avait été à ses yeux qu'une brève distraction, puis fonça vers le Dogan. À hauteur de sa tête, de petites fenêtres rondes, aux vitres fort épaisses, lui sembla-t-il, s'ouvraient sur son pourtour. La porte, elle aussi, était métallique. Il n'y vit ni loquet ni verrou, rien qu'une fente évoquant une bouche pincée. Au-dessus était écrit sur une plaque rouillée « North Central Positronics Ltd. » Forêt de Kinocnor, quadrant du coude. Avant-poste 9. Sécurité minimale. Utilisez votre carte clé. Il eut du mal à déchiffrer ces mots car ils étaient rédigés dans un mélange de haut-parler et de bas-langage. Mais le gribouillis qui les suivait était facile à comprendre. Tous ici sont morts. Au pied de la porte se trouvait une boîte qui ressemblait à celle qui servait de fourre-tout à sa mère, sauf qu'elle était en métal et non en bois. Il tenta de l'ouvrir, sans succès. Sur son couvercle étaient gravés des caractères qui lui étaient inconnus. Il s'y trouvait un trou de serrure d'une forme étrange. Il pensa à la lettre S. Mais pas de clé. Il tenta de soulever la boîte, toujours sans succès. On eût dit qu'elle était ancrée au sol ou bien fixée à un socle enfoui. Un rouillot mort vint s'écraser sur son visage. D'autres cadavres volaient autour de lui en tourbillons de plus en plus rapides. Certains tombaient à ses pieds après avoir rebondi sur le Dogan. Tim relut les derniers mots figurant sur la plaque. « Utilisez votre carte clé. » S'il avait des doutes sur la signification de ce terme, il lui suffisait de regarder la fente ouverte juste en dessous. Et il croyait savoir à quoi ressemblait une carte clé, car il venait juste d'en voir une, ainsi qu'une clé plus classique qui s'insérait sans doute dans le trou en forme de S de la boîte métallique. Deux clés, très certainement salutaires, accrochées au cou d'un tigre sans doute capable de l'engloutir en trois bouchées, voire deux, vu que sa cage ne contenait aucune trace de nourriture. Ça ressemblait de plus en plus à une sale blague. Une blague qui n'aurait pu amuser qu'un esprit cruel. Le genre qui mourait de rire en envoyant une fée égarer un petit garçon dans un périlleux marécage. Que faire? Et pouvait-il seulement faire quelque chose? Tim aurait bien aimé s'en remettre à Daria, mais son ami du disque, une bonne fée pour compenser celle que lui avait envoyée le collecteur, était morte. victime de la directive numéro 19. Il s'approcha lentement de la cage, progressant désormais contre le vent. En le voyant, le tigre cessa de tourner autour du trou pour se poster près de la porte. Il baissa sa tête imposante et le fixa de ses yeux mouillés. Le vent faisait frémir sa fourrure et ses rayures semblaient ondoyées comme du sable jaune et noir. Le vent aurait dû emporter le seau de fer blanc, mais il ne bougeait pas. À l'instar de la boîte, il semblait ancré au sol.
« C'est pour moi qu'il a laissé ce seau, pour que je me fasse avoir par ses mensonges. »
Tout ceci n'était qu'une sale blague, dont la chute se trouvait dans ce seau, le genre de saillie qui déclenchait des rires gras.
« Faut pas confondre la fourche et la pelle, imbécile. Change de trou !»
Mais puisque sa fin était proche, pourquoi ne pas rigoler un peu? Tim attrapa le seau et le souleva. S'il avait cru découvrir la baguette magique du collecteur, il fut plutôt déçu. La blague était encore plus tordue. Il avait devant lui une nouvelle clé, splendide et ouvragée. À l'instar de la bassine du collecteur et du collier du tigre, elle était en argent. Un morceau de papier y était attaché par un bout de ficelle. De l'autre côté du canyon, les arbres explosaient dans des craquements, et voilà que des vagues de poussière déferlaient sur lui, s'effilochant en rubans évanescents. Le mot du collecteur était des plus brefs.
« Salut, ô courageux enfant plein de ressources. Bienvenue dans la forêt de Kinoknor, qui fut jadis la porte du monde de l'extérieur. » « Je t'ai laissé ici un tigre contrariant. Il est affamé. Mais comme tu l'as peut-être déjà deviné, la clé de ton refuge est pendue à son cou. Et comme tu l'as peut-être également deviné, la clé que voici ouvre sa cage. Certain, si tu l'oses. Avec tous mes compliments à ta mère, dont le nouveau mari ne tardera pas à revenir. » Je reste ton fidèle serviteur. R.F.M.L.
Il était difficile de surprendre l'homme, si c'en était bien un, qui avait rédigé ce message, mais peut-être aurait-il été surpris par le sourire du petit garçon lorsqu'il se redressa, la clé à la main, et shoota dans le seau en fer blanc. Le vent, qui tournait carrément à la tempête, l'emporta au loin. Il avait accompli son office et ne recelait plus aucune trace de magie. Tim fixa le tigre. Le tigre fixa Tim. Il ne prêtait aucune attention à la tempête qui se levait. Sa queue fendait doucement l'air.
« Selon lui, je préférerais périr de froid ou me laisser emporter par le vent plutôt que d'affronter tes crocs et tes griffes. Peut-être qu'il n'a pas vu ceci ?»
Il dégaina son quatre coups.
Il a réglé son compte à la créature des marais, et je suis sûr qu'il ne ferait qu'une bouchée de toi, sale tigre.
Une nouvelle fois, il fut bouleversé en sentant à quel point le pistolet dans sa main lui semblait juste, si simple, si clair. Tout ce qu'il voulait s'était tiré, et Tim avait le même sentiment, sauf que...
« Oh, il a vu ce qui allait venir !»
reprit-il en souriant. Ce fut à peine s'il sentit ses lèvres s'étirer, tant le froid en était venu à l'engourdir.
« Ouais, il l'a vu et bien vu. Pensait-il que j'arriverais jusqu'ici ? Je le crois pas. Pensait-il que j'irais jusqu'à te tirer dessus pour survivre ? Pourquoi pas ? Lui-même en serait bien capable. » « Mais pourquoi t'enverrait-il un petit garçon ? Oui, pourquoi ? Alors qu'il a sans doute fait pendre un millier d'hommes, égorgé une centaine d'autres et chassé de leur foyer quantité de veuves comme ma pauvre mama. Peux-tu répondre à cela, sale tigre ?»
Le tigre le fixa sans broncher, baissant la tête et battant la queue de droite à gauche. D'une main, Tim repassa le quatre coups à sa ceinture, tandis que de l'autre, Il glissait la clé d'argent ouvragée dans la serrure de la cage.
« Ça y est, tigre, je te propose un marché. Donne-moi la clé pendue à ton cou pour que j'ouvre cet abri et nous aurons tous deux la vie sauve. Mais si tu me réduis en pièces, nous périrons tous les deux. Intuites-tu cela ? Si tu l'intuites, fais-moi signe. »
Le tigre ne broncha pas, le regarda sans rien dire. Tim n'avait pas vraiment espéré de réponse, et peut-être n'en avait-il pas besoin. Il y aurait de l'eau si Dieu le voulait.
« Je t'aime, maman, »
dit-il en tournant la clé dans la serrure. On entendit un bruit sourd lorsque pivotèrent les antiques goupilles. Tim agrippa la porte et la tira, arrachant à ses charnières un horrible grincement. Puis il recula d'un pas et se planta les poings sur les hanches. L'espace d'un instant, le tigre resta figé, comme empli de soupçons. Puis il sortit de sa cage en silence. Tim et lui se fixèrent sous le ciel purpurin, tandis que le vent hurlait et que la canonnade s'approchait. On eût dit deux pistoleros en train de s'affronter. Le tigre s'avança. Tim recula d'un pas, mais comprit qu'il lui suffirait de reculer d'un autre pour céder à la terreur. Aussi cessa-t-il de bouger.
« Viens-y, je suis Tim, fils du grand Jack Ross. »
Au lieu de lui déchiqueter la gorge, le tigre s'assit et leva la tête pour lui présenter son collier et les clés qui y pendaient.